Bonjour à toutes et tous, et oui, période compliquée que celle que nous traversons, les amis. Cette semaine, vu les conditions, une émission qui s'adapte un petit peu avec des conditions pas toujours très simples pour faire une édition classique. Ça, vous avez l'habitude maintenant depuis quelques semaines. J'espère que le best-of de la semaine dernière vous a malgré tout plu avec quelques musiques composées par votre serviteur. Cette semaine, on revient sur l'actu et j'ai décidé de me focaliser essentiellement sur le duel PlayStation 5 Xbox Series X en me basant sur un excellent papier de chez GameCult qui revient sur les propositions des deux machines point par point. Alors un dossier très complet dont j'ai extrait l'essentiel, je vous balance pas le dossier comme ça bêtement. J'ai fait en sorte que cela reste compréhensible pour les béotiens de la tech pure et dure, et je m'inclus dans cette catégorie de béotiens de la technique. J'ai voulu vous éviter vraiment trop de comparatifs de chiffres en tout genre. Si vous voulez creuser ce papier dont on parlera tout à l'heure, va assez loin dans les chiffres et dans les techniques utilisées. Bref, j'ai essayé de faire en sorte de prendre ce qui était pertinent pour s'y retrouver sans basculer non plus dans une puérile guerre de clochers. On va voir, c'est un match passionnant, on va voir ça. Mais avant cela, une première news incontournable, oui, parce qu'on a appris que Epic Games allait éditer les prochains jeux de Remedy. Alors Remedy, Control, Max Payne, Alan Wake et j'en passe. Remedy, donc, va passer par Epic Games pour l'édition de ses prochains jeux, mais ce n'est pas tout, puisqu'il y a aussi le studio Playdead, Inside Limbo, si ça vous dit quelque chose. Donc vraiment de grands jeux. Et surtout, alors mes petits préférés de ces trois studios qui ont été annoncés, qui vont être édités par Epic Games, Gen Design, un studio indé, je le rappelle, fondé par Fumito Ueda, le papa d'Ico, Shadow of the Colossus et de The Last Guardian. Comme une sacrée grosse nouvelle, donc il fallait absolument que je vous en parle. Impossible également de passer à côté de la meilleure nouvelle de la semaine, et oui, je pèse mes mots, Nier Replicant, un remaster annoncé par Square Enix. Alors vous savez l'amour que je porte à Nier Automata, j'avais découvert le premier Nier après coup, qui, malgré effectivement un gameplay qui avait assez vieilli, certes, et une technique qui n'était déjà pas à la pointe lors de sa sortie sur PS3 et 360, j'avais vraiment beaucoup aimé, alors pas autant qu'Automata, mais j'avais quand même beaucoup aimé, et je pense que je n'étais pas le seul, fan des travaux de Yoko Taro, à attendre un remake du premier Nier. Et ben ça y est, c'est jeuxvideo.com qui nous l'annonce, et qui nous parle, et qui nous rappelle même que pour son 10e donc anniversaire, le premier volet, donc le premier Nier, va être revisité sur PC, PlayStation 4 et Xbox One avec une version baptisée Nier Replicant version 1.22.47.44.8.7.1.3.9. Ouh ! Oui, on reconnaît bien là déjà la folie de Yoko Taro, y compris dans le titre de cette version. Oh, je vais pas vous refaire un speech sur le jeu entièrement. Si vous me suivez depuis longtemps, j'en ai déjà pas mal parlé, y compris du premier Nier. Mais, jeuxvideo.com nous rappelle, et on les remercie, pourquoi Nier Replicant, puisqu'il y avait un sacré bordel, il y avait deux versions de Nier à l'époque. Alors, jv.com nous refait un petit résumé. Il faut savoir que Nier Replicant était le nom donné à la version PS3 du jeu d'origine, donc du premier Nier. Tandis que la version Xbox 360 avait été nommée Nier Gestalt. La version internationale était basée donc sur cette dernière, sur la version Gestalt, dans laquelle le protagoniste est un père en quête d'un remède pour sa fille malade, Yona. C'est cette version auquel j'ai joué, comme beaucoup d'entre vous j'imagine, là où le Nier japonais, donc le Nier réplicante, nous faisait incarner son grand frère. Voilà, c'est donc la version rajeunie du héros que nous aurons pour ce remaster, nous dit JV.com. Dans son communiqué, Square Enix le décrit comme une version supérieure améliorée. Donc on ne sait pas trop si c'est un remaster, un remake, il y a un peu de flou pour l'instant. On sait pour le moment en tout cas qu'il y aura un doublage intégral, que les musiques ont été réenregistrées, elles étaient déjà absolument fantastiques, et que Keiichi Okabe va signer de nouvelles compositions. Ça vraiment, c'est bonheur. Un personnage inédit apparaîtra également dans l'aventure et les doubleurs de 2B et 9S, les héros de Nier Automata, occuperont un petit rôle. Quant à la question de savoir, se demande jeuxvideo.com, si une nouvelle fin sera ajoutée, le producteur Yuzuke Saito a déclaré qu'il ne connaissait pas encore la réponse. Bon, pour le développement, là, c'est pas Platinum Games, c'est vrai que j'avais souvent appelé de mes voeux un remake du premier Nier, toujours par Platinum. Platinum est extrêmement occupé, sachant que là, j'enregistre le 29 mars, le dimanche, le 1er avril, il y a une grosse annonce de Platinum qui doit encore tomber. On verra ça, je vous en reparlerai la semaine prochaine. Si vous suivez le Twitter de l'émission, @revuedepresse.jv tout collé, on va en reparler, vous inquiétez pas. Donc, Square Enix a confié confié le développement donc à un autre studio, hein, voilà. Et c'est le studio Toy Logic qui avait déjà collaboré, nous rappelle JV.com, sur Dragon Quest 11 version 3DS, Dragon Quest 10 sur Wii. Bonne nouvelle, Takahisa Taora de Platinum Games est impliqué quand même dans le projet, alors... Je suppose que c'est peut-être plus côté système de combat, on verra bien. Et l'annonce du titre, nous dit le papier, est l'occasion de préciser une nouvelle fois que Nier Automata a été un véritable succès commercial, contrairement à son prédécesseur, puisque Automata a dépassé les 4,5 millions de copies distribuées et vendues en téléchargement dans le monde. Mais ce n'est pas tout, puisque c'est la fête à Nier, et donc en plus de cette version remaster, remake, on ne sait pas, du premier Nier sur PC, PS4 et Xbox One, Square Enix a annoncé l'arrivée d'un nouveau jeu Nier sur mobile lors de la diffusion, célébrant donc les 10 ans de la licence. Le jeu est nommé Nier Réincarnation, un titre conçu pour iOS et Android et développé par le studio AppliBot, hein, à qui l'on doit Blex, X-Lord et Seven's Code, avec l'implication des cadres de la licence, à savoir Yosuke Saito, hein, le producteur, Yoko Taro, bien sûr, le papa, hein, le directeur créatif, Akihiko Yoshida, le character designer, Koda Kazuma, concept artist, et Keiichi Okabe pour les musiques, donc on est rassuré, même si c'est une version, un spin-off mobile, et ben moi je l'attends beaucoup, hein, ne serait-ce que avec les personnes qui se trouvent aux manettes, on ne sait pas grand-chose du style de jeu, mais il nous est présenté comme un RPG free-to-play. Bon, aucune date de sortie n'est annoncée, on verra bien, mais voilà, je voulais vraiment vous parler de ceci, très important, et là, juste un petit jingle, allez, hein, c'est un peu spécial en ce moment, et on va passer au gros sujet de cette semaine. Allez, jingle, et à tout de suite. PlayStation 5 contre Xbox Series X, le match, un premier round technique. Voilà l'excellent papier à nouveau de GameCult. Donc, avant toute chose, l'article nous rappelle que malgré l'annulation de la GDC 2020, Microsoft et Sony ont finalement révélé les caractéristiques techniques officielles donc de leur nouvelle console. Si les points de convergence sont plus nombreux que jamais entre les deux propositions, en particulier le choix de la même écurie et architecture pour le couple CPU-GPU, on commence à distinguer, nous dit l'auteur de cet article, deux philosophies différentes à travers les détails. Et c'est là où c'est intéressant. En l'absence donc d'une GDC cette année, c'est par les canaux bien plus classiques de la vidéo préenregistrée et du communiqué de presse que Sony et Microsoft ont révélé les détails techniques essentiels de la future PlayStation 5 et de la future Series X. Un exercice délicat, oui, c'est le moins qu'on puisse dire, avec un jargon ainsi jeté en pâture à un public auquel il n'est pas destiné, et même la bonhomie et la pédagogie de Marc Cerny n'auront pas suffi à calmer les bâillements de millions d'internautes connectés pour découvrir la PS5. On en avait parlé la semaine dernière, en préambule de mon méga best-of, et c'est ce que je vous disais, qu'il y avait vraiment des choses, au-delà du jargon technique et d'une erreur de com', hein, ça c'est clair, il y avait des choses très intéressantes qui s'étaient dites derrière tout ça. Bon, teraflop, compute unit, ray tracing, bande passante, SSD, etc., etc., au-delà du bras de fer technique, nous dit-on, on aurait tort de ne pas voir à travers les specs de la Series X et de la PS5 la confrontation de deux philosophies. Marc Cerny, hein, d'à côté, le lead system architect de Sony, a ainsi résumé son approche en trois points. Écouter les développeurs, trouver de nouveaux rêves et équilibrer l'évolution et la révolution. Rien que ça. Une forme d'ésotérisme marketing, certes, mais en auscultant en détail les propositions techniques des deux consoles, on discerne un début d'explication. Et parmi ces nouveaux rêves, Microsoft et Sony en partagent un qui est très ambitieux, réduire au minimum les temps de chargement pour les open world, toujours plus fluides et sans interruption surtout. La solution se dessine notamment à travers un périphérique qui fera sourire les joueurs PC, nous dit GK, et c'est vrai, le SSD. Mais ici, poussé à des débits rarement atteints et secondé par une flopée de technologies complémentaires, il pourrait bien avoir des répercussions sur la manière de concevoir des jeux. Fini les couloirs interminables ou les longs ascenseurs pour masquer le chargement dynamique d'assets toujours plus volumineux, les développeurs sont invités à débrider leur imagination en se dispensant de ce genre de limites ou coûteuses optimisations. Bon, on va parler du processeur. Vous êtes prêts? Accrochez-vous à votre casque. Je vous l'ai dit, hein, j'ai vulgarisé au maximum, sachant que ce papier faisait déjà office d'une vulgarisation. Vraiment, j'ai envie de dire de bonne aloi. Donc, le processeur. D'ailleurs, je vais vous retrouver le nom, puisque honte à moi, j'ai omis de le noter. c'est Boba Fett, voilà, de son pseudo, qui a signé cet excellent papier. Alors, le processeur. Si l'on devait élire un grand vainqueur, nous dit Boba Fett, il serait tout trouvé AMD, qui tient aujourd'hui l'adresse géante à Intel et a progressivement consolidé sa nouvelle micro-architecture Zen depuis 2016. Et c'est précisément la génération Zen 2 qui va unilatéralement équiper la Xbox Series X et la PlayStation 5. Si les deux écuries adoptent un CPU techniquement très proche, elles semblent l'exploiter légèrement différemment, à commencer par la fréquence à laquelle elles le cadencent. 3,5 GHz pour la PS5 contre 3,8 GHz pour la Series X. Alors oui, nous dit l'article, sur le papier, on pourrait conclure tout naturellement que le processeur de Microsoft est 8,6% plus rapide que celui de Sony. Mais en pratique, c'est surtout leur implémentation qui va conditionner les performances résultantes. Au-delà de la comparaison entre les deux futures consoles, on peut aussi les confronter aux générations précédentes. Et là, l'écart est considérable. Écoutez bien, on n'évolue plus vraiment du tout sur les mêmes registres. En puissance de calcul brut, les Xbox Series X et PS5 sont 4 à 5 fois plus performantes que les consoles que nous connaissons actuellement, PS4 et Xbox One. Passons maintenant au GPU. Évidemment indissociable du processeur au sens propre comme au figuré, pour évaluer les performances des futures machines. Alors le GPU des Xbox Series X et PlayStation 5 est lui aussi, je vous le donne en mille, signé AMD. Et là encore, les deux consoliers adoptent la même architecture tout en l'implémentant différemment. Et là, c'est vraiment le but de ce dossier, et je le trouve vraiment très pertinent là-dessus, c'est vraiment de voir les deux philosophies différentes. Voilà, ça c'est vraiment très important, au-delà des bêtes guerres de clochers totalement infantiles. Bon, Microsoft privilégie le nombre d'unités de calcul, tandis que Sony favorise la fréquence. Donc en théorie, ce choix se traduit par une puissance de calcul brute supérieure du côté de chez Microsoft. 12 teraflops, les voilà les gentils petits teraflops, 12 teraflops donc pour Xbox, contre 10,28 teraflops pour la PlayStation 5. En pratique, là encore, difficile de conclure sur la base de cette seule valeur. Oui, Marc Cerny a rappelé que ce ne sont pas seulement les CU qui se voient cadencés à 2,23 GHz, mais également toutes les autres unités du GPU responsables d'autres types de rendus. A ce titre, l'architecture RDNA 2 introduit pour la première fois le ray tracing matériel dans l'offre AMD. Un ray tracing, on l'a beaucoup entendu ça aussi. Elle supporte également de nouvelles technologies de rendu dans le calcul de la géométrie, l'application des textures ou la description de l'absorption et de la diffusion des lumières. Baptisée Variable Rate Shading, ces technologies gagnent en finesse et les développeurs peuvent aussi privilégier certaines zones de l'affichage pour affiner le rendu, tout en appliquant un shading moins précis ailleurs. De quoi donc améliorer tout naturellement, sans sacrifier la définition de l'image. Il reste toutefois à déterminer si c'est le choix de Microsoft, donc plus de CU, une fréquence inférieure, ou de Sony, totalement l'inverse, donc qui sera le plus payant. Ça, l'avenir nous le dira, et là encore, ce sont les jeux qui parleront pour eux. Passons maintenant au stockage, le fameux disque dur SSD. Oui, puisque peut-être plus encore que le couple CPU-GPU, c'est le support de stockage qui risque de concrétiser le rêve, nous dit-on, que caresse Marc Cerny. Car pour la première fois sur console, les deux machines embarquent un SSD. Alors oui, nous dit le papier, les joueurs PC opinion du chef, les SSD ont bien boosté la réactivité de leur système, mais de là à les considérer comme un vrai game changer, avec un avant et un après dans l'histoire du développement, il fallait quand même s'escrimer d'arguments pour nous convaincre. Et c'est par les débits que Microsoft et Sony pourraient remplir leur pari. Oui, pour rappel, les disques mécaniques à plateau classique crachent des données à 8040 ms/s. Bon, sur la Xbox Series X, on parle tout de même, accrochez-vous, de 2,4 gigasecondes en accès direct et de 4,8 gigasecondes pour des données compressées. Pour atteindre ce type de débit sur PC, il faut compter plus de 200 € pour des modèles de 1 Tera. Sony va même plus loin en annonçant des débits de 5,5 gigasecondes en direct et de 8 à 9 gigasecondes pour des données compressées. Donc ça, c'est des chiffres effectivement qui donnent le tournis. Maintenant, il faut voir concrètement si les joueurs pourront vraiment ressentir cet avantage manette en main. Alors en contrepartie, Microsoft est plus généreux sur la capacité de stockage, nous dit-on. 1 Tera, donc pour le disque dur SSD de la Xbox Series X, contre 825 Go pour la PS5. Dans les deux cas, il sera possible de l'étendre par la suite, mais les constructeurs font des choix là opposés à nouveau. Du côté de Microsoft, il faudra investir dans des cartes propriétaires de 1 Teraoctet, développées en partenariat avec Seagate. Bon, les deux consoles disposeront par ailleurs d'un port USB 3.2 pour accueillir plus classiquement des supports externes. Elles embarqueront évidemment chacune un lecteur 4K UHD Blu-ray. Alors que penser de ces choix, hein, déjà, se demande Boba Fett. Il nous dit qu'avec des écosystèmes de plus en plus lourds, il paraissait impératif de passer au SSD pour gagner en réactivité générale. Mais avec les débits qu'annonce Sony, on parle de transférer quand même 2 gigas de données en un quart de seconde, ou de remplir les 16 gigas de mémoire vive de la PS5 en 2 secondes tout au plus. Mark Cerny y voit la levée d'une lourde contrainte pour les développeurs, celle de masquer les temps de chargement à travers le level design, on en parlait tout à l'heure, ou les indéfendables crunch pour optimiser tous les assets. D'autant plus que, sur les deux consoles, la décompression serait matérielle, hein, ça c'est important de le préciser, et n'alourdirait pas la tâche des développeurs. Il reste à vérifier en pratique si de tels débits seront respectés et surtout à s'assurer que de telles ambitions ne vont pas plomber le prix et la date de lancement des deux machines. Dans le contexte actuel, commander de très gros volumes de mémoire flash est risqué, et ça tout le monde le comprendra aisément. On va passer maintenant du côté de la mémoire vive. Et oui, c'est important la mémoire vive, mes amis. L'autre montée en puissance donc se trouve de ce côté-là, car pour la première fois, les deux consoles vont embarquer 16 gigas hein, de GDDR6, une valeur aujourd'hui incontournable que les deux constructeurs ont toutefois choisi d'intégrer différemment. Oui, car du côté de la PlayStation 5, on opte pour une approche unifiée, nous dit-on. Les 16 gigas du GDDR6 seront accessibles sur un bus de 256 bits, avec une bande passante mémoire de 448 gigas secondes. On retrouve un bus 320 bits chez Microsoft avec un débit de 560 gigas secondes pour les 10 premiers gigaoctets et de 336 gigas secondes pour les 6 gigas suivants. Bon, voilà, je vous donne un petit peu de chiffres là parce qu'il faut quand même un peu en donner. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas trop vous inonder de chiffres effrayants comme cela. Donc l'allocation de la mémoire, nous expliquons, est donc plus complexe sur la Xbox Series X, mais les développeurs pourront profiter de débits plus élevés. En pratique, Microsoft parle même de réserver 13,5 Go de mémoire GDDR6 au jeu, avec des données éventuellement accessibles à des débits différents. Il reste ainsi 2,5 Go pour le système d'exploitation. À ce stade, effectivement, il reste plus difficile de prédire la meilleure des deux solutions entre une approche unifiée mémoire rapide et une distribution plus complexe mais plus rapide. On se contentera, nous dit GameCult, de se réjouir de voir enfin 16 gigas de mémoire vive dans nos consoles. Passons maintenant à l'un des points les plus excitants, j'ai envie de vous dire. J'espère que vous en frétillez comme des petites truites. Les armes secrètes, architecture Velocity et Tempest Engine. Qu'est-ce que c'est que ça? N'ayez pas peur, ne coupez pas. Je vais vous expliquer, je vais essayer de faire mon monsieur chevalet. Donc, on nous dit que si les deux consoles présentent de nombreux points de convergence, elles lèvent déjà le voile sur ce qui les différenciera techniquement. Du côté de Microsoft, on mise sur la réduction de la latence avec l'architecture Velocity, tandis que chez Sony, on s'aventure sur les terres de l'audio 3D. Avec les meilleurs débits offerts par son SSD et sa mémoire GDDR6, Microsoft s'est décidé à offrir davantage d'espace pour stocker les assets des jeux. 100 gigaoctets sont instantanément accessibles aux développeurs. Outre le SSD, deux autres éléments s'intègrent dans ce que l'on appelle l'architecture Velocity, un bloc hardware de décompression et une extension de DirectX, Direct Storage, qui va traiter la charge en exploitant un dixième d'un cœur Zen 2. Un tel système soutient également la fonction de reprise rapide de la Xbox Series X. Vous savez, on en a déjà causé, hein, c'est lorsque vous quittez un jeu, donc la mémoire vive est mise en cache sur le SSD et vous retrouvez aussitôt votre partie au prochain lancement. Hein, pour compléter le tableau, Microsoft a retravaillé tous les autres aspects liés à la latence, à commencer par la manette. Oui, le contrôleur donc, de la Series X réduit la latence des entrées analogiques et transmet instantanément les commandes digitales comme la pression sur les boutons. Baptisée Dynamic Latency Input, cette technologie identifie chaque entrée en lui associant un timestamp unique, ce qui permet aux développeurs, frame par frame, d'imposer un timing précis ou de corriger un éventuel lag, par exemple. Maintenant, du côté de chez Sony. On reprend son souffle et on continue. On n'oublie pas ses premières amours, nous dit-on, et la PS5 focalise l'une de ses innovations singulières dans le monde de l'audio avec un nouveau moteur, Tempest Engine, dédié au son 3D. On a pourtant rarement vendu une console sur ses promesses sonores, mais il suffit d'observer l'engouement suscité par la communauté des développeurs à son sujet pour saisir l'importance de cette fonctionnalité. Et moi, c'est l'une de celles que, voilà, qui me titille le plus, pour tout vous dire. Donc la technologie est aussi complexe que les ambitions du projet. Intimement lié à Marc Cerny, il en a parlé hein, dans cette conf GDC enregistrée qu'en a endormi plus d'un. Mais quand je vous disais qu'il y avait des choses intéressantes qui s'y étaient dites. Bref, dans sa présentation, l'architecte hein, de la PlayStation 5 rappelle que dans les jeux actuels, par exemple, la pluie se traduit toujours par un son unique, ou presque, hein, simplement chargé à un moment précis dans le jeu. Donc avec ce Tempest Engine, il s'agira de rendre compte individuellement du son de chaque goutte en fonction de leur position en temps réel et des matériaux qu'elles traversent. Pensez Ray Tracing Audio, hein, avec la même finalité, renforcer l'immersion, la fidélité, le réalisme. Un tel rendu est certes exigeant, hein, il doit localiser en permanence la position des dizaines d'éléments et appliquer des effets ou des déformations au son en fonction de la position de l'auditeur. Et ce n'est pas tout, nous dit-on, la forme du visage ou des oreilles joue également sur le rendu. Si l'on cherche à atteindre une fidélité maximale, Sony a réalisé une centaine de portraits robots, hein, qu'ils appellent les HRTF, et donc en analysant de vrais joueurs hein, pour simuler la perception audio. Au lancement de la PS5, il en retiendra 5 hein, et vous invitera à sélectionner celui qui vous correspond le mieux hein, à travers un petit assistant qui fera ça très bien. Bref, le tout est promis avec un équipement audio conventionnel. Et là, c'est intéressant. C'est-à-dire les haut-parleurs de votre télé, votre casque audio que vous branchez sur la manette ou sur la télé. Bref, si les premiers intéressés, les designers audio, semblent emballés par la proposition, on aurait tendance à tempérer, nous dit GameCult, notre enthousiasme face à ce qu'on nous présente comme une killer app et qui pourrait revêtir une réalité plus contrastée dans un environnement réel et bruyant. Oui, effectivement, là, il faut que les conditions de jeu soient optimales, mais si, comme moi, vous aimez profiter des jeux que vous attendez le plus, vraiment dans une bonne ambiance, soit au silence avec le son sur la télé, soit avec votre casque vissé sur les oreilles, ça peut quand même donner quelque chose de très intéressant. Moi, là où j'ai un petit peu peur, c'est le boulot que ça va demander aux développeurs derrière. Est-ce qu'ils vont vraiment suivre? Alors j'imagine que les first parties Sony vont l'exploiter. Par contre, pour les éditeurs tiers, ça va quand même demander un coût supplémentaire par rapport aux versions Xbox. C'est là où je me dis que tous ne le font peut-être pas. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, ça me fait envie. Conclusion, hein, on y arrive, oui, parce que là, c'est peut-être déjà un peu trop long. Hein. J'ai essayé de rendre ça quand même le plus accessible possible et le plus dynamique possible. J'espère avoir réussi, vous me direz. Donc après avoir passé en revue les caractéristiques techniques donc des futures Series X et PS5, qui peut encore résumer leur affrontement à une simple bataille de teraflops, nous dit GK, nous dit Boba Fett. Et il a raison, il y en a marre de cette guerre des teraflops. Moi, je sais pas vous, mais moi, j'en peux plus. De la refonte du système audio à l'optimisation de la latence jusqu'au contrôleur, en passant par des implémentations de la mémoire vive et des choix de SSD différents, les deux solutions se distinguent dans de multiples domaines. Et c'est tant mieux. Oui, c'est tant mieux. Vous le savez, moi j'aime pas les guerres de clochers. Vous le savez que mes goûts en matière de jeu, parce que pour moi, ce qui doit vous guider vers une console, c'est vos goûts en matière de jeu. Je préfère effectivement mille fois les exclus Sony que les exclus Microsoft. Hein, je vais pas dire Xbox parce que Xbox c'est sur PC aussi. Mais vous voyez ce que je veux dire. Bon, force est de constater qu'au niveau des promesses, les deux machines ont des choses vraiment super intéressantes. Quoi. Sur le papier, il n'y en a pas une qui démérite par rapport à l'autre, je trouve. Et c'est génial, tout le monde s'y retrouve. Donc voilà, que vous soyez pro Xbox, pro Sony, pro Nintendo, pro micro-ondes, tout ce que vous voulez. L'important, ce sont les jeux. Voilà, ce sont les jeux. Et donc, Boba Fett nous dit qu'effectivement, ce n'est pas un hasard si ces spécificités devaient être dévoilées à l'origine à la GDC, hein, devant une assemblée de professionnels. Comme Marc Cerny l'a évoqué au tout début de sa conférence, le premier souhait de Sony et de Microsoft a été de les écouter. Écouter les professionnels, écouter les développeurs. Donc, de comprendre leurs besoins, d'essayer d'amener le jeu vidéo ailleurs, plus loin. Sur le papier, la perspective de profiter de temps de chargement réduit à néant et donc d'un level design réinventé est réjouissante, nous dit Boba Fett. Et oui, c'est vrai que c'est réjouissant. On va s'arrêter là donc pour ce match. Vous aurez le lien dans la description de l'épisode, bien sûr, si vous voulez aller voir les tableaux de chiffres plus complets, y compris dans certains paragraphes, hein, y a des données chiffrées qui sont assez complètes, que j'ai évincé exprès pour cette émission. Mais je trouve vraiment les deux offres vraiment très très alléchantes et ça nous promet de beaux moments. Maintenant, effectivement, vu le contexte actuel, est-ce que ces machines seront livrées à temps? On ne sait pas. En attendant d'avoir déjà de vraies dates, mais je pense qu'il faut avoir le sens de la des priorités. Et si les consoles sont retardées, eh ben c'est pas grave, hein. On va pas faire nos enfants gâtés. On peut attendre un petit peu. Bon, en tout cas, voilà. Je ne sais pas. Si ce report de ce que renferment les futures consoles de Sony et Microsoft vous affriole un petit peu, moi en tout cas, je trouve que c'est vraiment très 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 intriguant et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, quoi. Manette en main, bien sûr. Avant de nous quitter, j'aimerais remercier, comme chaque semaine, les tipeurs. Merci vraiment pour votre soutien. Je voudrais remercier Yetcha, Bertrand Amar, Neo Calimero, Pipo Letsu, Trifon, Siwididju, Electro Tactics, Tophobie, Yvan Le Pierrot, Machin Truc 76, que je salue particulièrement, courage à toi Machin Truc, Donny Jeep, Garan, Nassara, HXC, Lina Nounette, Pikachu HL9, Nicolas, Vanifraise, X Nihili, Carnoct, Lutherian, Aza, Slocoanet, Evolix, JP Madère, Monsieur A et les deux patrons, car vous savez l'émission a aussi un Patreon, hein, Gontran et Tonton Bernard, nouveau Patreon, ils sont deux maintenant sur le Patreon, je vous remercie vraiment, c'est adorable de votre part, merci beaucoup pour votre soutien. Bref, et je remercie également toutes les auditrices et tous les auditeurs, pardon j'en bafouille, pour votre soutien indéfectible. Bref, soyez forts. Courage à vous, respectez les consignes, prenez soin de vous et des autres, on en sortira. Restons forts, restons unis. Je vous fais un gros béco et donc je vous dis à tantôt. Bye bye.